Hello à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Off the Map. Alors je voulais déjà vous remercier, je voulais vous dire un grand grand merci pour toutes vos écoutes, pour tous vos partages, pour tous vos petits messages. Ça me fait vraiment chaud au cœur, je suis hyper contente que ce nouveau format de contenu vous plaise. Et que voilà, ça m'encourage en tout cas à continuer à partager encore plus avec vous. Alors dans ce nouvel épisode, j'avais envie de vous parler d'émotions, j'avais envie de vous parler de sentiments, de sensibilité, d'hypersensibilité aussi. Et puis à la fin, j'ai aussi envie de vous parler de mes routines. J'ai envie de vous donner mes conseils, quelles sont les choses que je fais au quotidien justement pour m'aider dans la gestion de mes émotions et pour m'aider aussi d'une certaine manière à prendre les bonnes décisions dans ma vie, aussi bien pour moi mais aussi pour les autres. Alors, il y a quelques secondes, je vous plaçais le terme justement hypersensibilité. Alors, qu'est-ce que l'hypersensibilité ? Pendant longtemps, je vais vous faire une petite histoire pour vous contextualiser un petit peu tout ça, mais pendant longtemps, je me suis dit que j'étais pas normale. Parce que pendant très longtemps, pendant mon adolescence, pendant mes années en école de commerce, j'avais pas envie d'aller en boîte. J'avais pas envie de faire des soirées. J'avais pas envie de m'enfermer dans des endroits où il y avait plein de gens, où il y avait de la musique très fort. Ouais, c'était pas mon délire, comme je disais. Et c'est vrai qu'au début, je me forçais. Je me forçais beaucoup parce que je me disais que j'étais pas normale et que si j'insistais un peu, peut-être que je finirais par être enfin normale et à me mettre dans ce moule dans lequel je devais être justement pour être, entre guillemets, normale et dans les standards, au final, de la société. Donc je me suis forcée à aller une ou deux soirées et vraiment, j'adhérais pas et je comprenais pas. Déjà, je buvais déjà à l'époque pas vraiment beaucoup d'alcool. J'ai toujours apprécié en fait passer des moments avec quelqu'un dans un café, prendre un café. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère et au-delà de ça, on est vraiment en face-to-face avec quelqu'un et on a vraiment la possibilité d'échanger. Peut-être aussi qu'à l'époque je n'avais pas vraiment confiance en moi, pas vraiment confiance en mon corps pour me dire allez, je me jette sur le dance floor et je danse toute la nuit quoi. C'était pas mon truc tout simplement. Et donc comme je disais pendant longtemps je me suis posé la question de savoir si j'étais normale jusqu'à ce que je tombe sur le terme d'hypersensibilité. Et j'avoue que ça m'a fait énormément réfléchir et beaucoup de choses en fait ont pris sens une fois que j'ai compris ce que signifiait être hypersensible. En fait, être hypersensible, c'est quand on ressent les émotions, quand on ressent les énergies, que ce soit d'une situation, d'une personne, peu importe, quand on ressent les choses de façon décuplée. Ça peut être aussi bien de la joie, de l'excitation, comme ça peut être de la peine, comme ça peut être de la douleur, comme ça peut être de la déception. Donc c'est vraiment tous les types d'émotions, mais qu'on va ressentir de façon décuplée. Et croyez-le ou non, c'est souvent difficile à gérer. Pour soi et puis pour les autres aussi. Et apprendre justement à canaliser ses émotions, apprendre à comprendre les origines de ce qu'on ressent, c'est déjà une très très grande étape dans l'accomplissement justement de la gestion de ses émotions au quotidien. Et je pense que ce chemin que j'ai réussi à faire par rapport à mes émotions et par rapport à qui j'étais, ça m'a énormément aidée en fait dans mes relations avec les autres. Et je pense qu'aujourd'hui mes relations sont beaucoup plus saines parce que moi-même je suis plus saine avec ce que je ressens et j'arrive à mieux comprendre pourquoi je ressens les choses. Et l'autre chose que j'ai compris par rapport justement à ce terme d'hypersensibilité, c'est qu'on était tous différents. Que c'est pas parce que certaines personnes vont pas être vexées d'une situation ou d'un mot ou quoi que ce soit, que vous ne pouvez pas l'être. Et vice versa. Tout le monde ressent les choses différemment et ça c'est vraiment important de se le rappeler quand vous vivez en plus en coloc ou que vous êtes en couple. Comprendre la différence et savoir être tolérant vis-à-vis des émotions et de la façon de ressentir des gens, ça vous rendra tellement plus ouvert d'esprit et tellement plus tolérant et respectueux. C'est génial en fait d'arriver à avoir ce contrôle entre guillemets sur nos émotions. Donc voilà, j'avais déjà envie de vous parler d'hypersensibilité et ensuite j'avais envie d'introduire un concept yogique. Parce que je vous ai promis que ces podcasts, ce serait quand même autour du yoga et la manière en fait dont on pouvait servir de la philosophie yogique dans notre quotidien. Alors j'ai pas encore fait cet épisode introductif au concept pour que vous ayez pardon, ce que je disais, cette overview un peu générale, mais je vais le faire cet épisode et je pense que ce sera l'épisode que vous aurez la semaine prochaine. Mais je vais vous introduire un concept qui est un peu plus spécifique, qui est le concept des kleshas. Le terme klesha en sanskrit, ça signifie poison. Et dans la philosophie yoga, en fait, on en compte 5. 5 poisons qui sont en fait à l'origine de nos douleurs, de nos souffrances. Alors, je vais vous aborder rapidement ces 5 kleshas et puis on s'arrêtera sur la dernière parce que c'est celle-ci dont j'avais vraiment envie de vous parler au vu de la situation qu'on vit tous aujourd'hui. Alors, le premier klesha, c'est l'ignorance. L'ignorance, alors, ça peut être l'ignorance d'autrui, ça peut être l'ignorance de ce monde dans lequel on vit, mais ça peut être aussi l'ignorance de soi. Ça peut être une part de nous, une part de notre personnalité, une part de qui l'on est, qui est masquée. Soit qui est masquée parce qu'on vit dans une bulle qui se conforme en fait à ces standards. Hein. On parlait justement dans l'épisode précédent d'un point de vue perso mais aussi pro. Quand on se cache, quand on se masque derrière un travail, quand on se cache derrière une personnalité peut-être. Bref, quand on se cache, en fait, c'est aussi parce qu'on s'ignore, parce qu'on ne sait pas qui l'on est et que tant qu'en fait, on n'arrivera pas à être à 100% une personne calme, une personne mentalement, émotionnellement stable, une personne 100% aimante, H24, entre guillemets, c'est qu'au fond, en fait, on ne sait pas qui l'on est et qu'on s'ignore. Et le fait de vivre dans l'ignorance nous rendra forcément malheureux et nous fera forcément souffrir. Un second klesha, c'est l'égoïsme. C'est le fait de ramener tout à soi. Je pense que vous savez ce qu'est l'égoïsme, mais voilà. Prenez note, moi je trouve ça intéressant, une fois qu'on a absorbé et compris ces concepts, d'observer en fait dans notre vie tous les jours comment on peut les appliquer. L'égoïsme, c'est aussi quand on ramène tout à je, quand on ramène tout à moi, à mon, à ma. Et généralement, quand on est très auto-centré, ça ne veut pas dire forcément d'ailleurs que cette personne, elle est mauvaise. Quand on est auto-centré, c'est aussi parce qu'on est mal dans sa peau. Cette personne, généralement, elle va prendre les choses très personnellement et elle vit dans cette bulle, justement. Et ça ramène aussi à ce que je disais juste précédemment sur l'ignorance de soi. Mais le fait de vivre dans cette bulle auto-centrée, ce petit confinement... généralement ça va amener des pensées négatives et le fait justement d'arriver à s'ouvrir aux autres à s'ouvrir au monde qui nous entoure, ça peut être des humains mais ça peut être aussi la nature, tout ça en fait ça va nous permettre en fait d'avoir une ouverture d'esprit qui va être beaucoup plus grande et de vivre justement avec beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de sérénité. Un troisième klesha, c'est l'attachement. Donc, on en revient à ce mon, à ce ma. L'attachement, c'est quelque chose d'hyper négatif parce que c'est quelque chose qui va rapidement devenir une obsession. Être attaché à quelqu'un, être attaché à un objet, être attaché à un projet, être attaché à un rêve, ça, c'est un attachement que je dirais positif. Parce que c'est bon, en fait, de cultiver l'attachement. Dès lors, en fait, qu'il ne deviendra pas une obsession, dès lors qu'on ne tombera pas dans le perfectionnisme d'atteindre à tout prix cette chose à laquelle on pense depuis des jours et des mois. Donc, c'est aussi trouver, en fait, une moindre mesure dans cet attachement. Une autre klesha, c'est l'aversion. Alors, l'aversion, c'est quand on ressent de la haine. Quelque chose de très fort, c'est un ressenti qui est quand même très très négatif. On en vient même à ressentir du dégoût. C'est l'opposé, pour vous dire, totale avec le désir et avec le plaisir, l'aversion. J'ai une aversion pour quelqu'un. Quand quelqu'un vous dit vraiment j'ai une aversion pour ce prof, j'ai une aversion pour les brocolis par exemple. Note à vous, les brocolis sont très bons pour votre santé et pour vos papilles également. C'était une petite parenthèse que je referme. Voilà, donc avoir une aversion pour quelque chose ou pour quelqu'un, c'est quand même quelque chose qui est hyper fort. Ressentir de la haine, c'est cultiver nécessairement des émotions et des sentiments qui sont négatifs à l'intérieur de nous. Et ça revient à ce que j'ai dit juste précédemment. On cultive quelque chose à l'intérieur d'une bulle toute petite. Et forcément, ça crée un cercle vicieux, hyper négatif pour notre esprit, pour notre corps, etc. Et donc, dernier cliché, c'est la peur. Pour moi, cette peur, elle est forcément liée à l'ignorance, à l'égoïsme, à l'attachement et à l'aversion. Cette cinquième cliché, c'est un peu all of the above, qui font que voilà, on est dominé dans notre vie et qu'on a peur. Parce que quand on a peur, c'est souvent parce que, premièrement, on se sent impuissant. On n'a pas le contrôle sur ce qui nous arrive, donc on a peur. On ressent la peur parce qu'on est dans l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer et bah, on a peur. On cherche à anticiper un peu ce qui va pouvoir se passer, à faire des scénarios, à se dire, voilà, il peut se passer ça, mais peut-être qu'il peut aussi arriver ça. Bref, on ne sait pas. On ne sait pas, on est impuissant, on n'a pas le contrôle, donc du coup, on a peur. Mais cette peur, elle est aussi liée au changement. On a peur du changement, forcément. C'est quelque chose qui nous fait peur de sortir de notre zone de confort. Aujourd'hui, plus que jamais, d'ailleurs. Je pense qu'on a à la fois hâte du changement, mais on a aussi peur. Personnellement, moi, j'ai peur. J'ai pas peur de ce qui se passe aujourd'hui, même si ce qui se passe, c'est grave et c'est une période qui est difficile. J'ai peur, en fait, que tout ce qui se soit passé et tout ce message, justement, que la planète et l'univers nous a envoyé s'évapore très vite. J'ai peur que toutes les leçons, en fait, qu'on pourrait garder de cette expérience et qu'on pourrait retenir de ce que nous envoie aujourd'hui la planète disparaissent beaucoup trop rapidement. Moi, c'est plus ça qui me fait peur. Et puis, voilà, je ressens comme vous, je pense, quand j'ai peur... Je ressens, ouais, l'absence totale de contrôle. Quoi que je dise, quoi que je fasse, quoi que j'essaye de penser, quoi que j'essaye d'anticiper, j'ai pas le contrôle. On n'a pas le contrôle, personne n'a le contrôle et clairement, ça fait peur. Et je pense que si on arrive à apporter peut-être un peu plus à la fois de rationalisme dans notre vie, et d'accepter justement que bah, on est ici, dans l'instant présent, et qu'on ne peut rien faire d'autre que d'être dans l'instant présent. Et je pense que c'est important aujourd'hui de le souligner, et j'avais vraiment envie de le souligner ici, dans cet épisode, parce que je pense que ça va résonner, au vu de la situation actuelle, je pense que ça va résonner en vous, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à part l'instant présent ? Clairement. Penser au passé, c'est quelque chose qui va amener un sentiment de dépression. On va se sentir déprimé parce qu'on va ressasser ce qui s'est passé dans le passé. On va ressasser, on va dire si j'avais fait les choses comme ça, ça aurait été différent aujourd'hui. Si j'avais dit ça, ça ne se serait pas passé comme ça, etc. etc. Et c'est déprimant au final d'essayer de refaire le passé puisqu'on ne peut pas le refaire. Et puis quand on va vivre dans le futur... On va être très anxieux. La semaine dernière, j'ai vécu une semaine mais de stress énorme. Et ça m'a aussi inspirée à faire cet épisode de podcast parce que je me suis dit, attends, c'est pas possible. T'es beaucoup, beaucoup trop stressée. T'as perdu toutes tes routines. T'as perdu toutes les choses que tu savais mettre en place pour arriver justement à canaliser ton stress et être la meilleure version de toi-même pour toi et pour les autres. Ben là, clairement... Tout est parti en poussière. Et tout simplement, j'étais anxieuse parce que je ne savais pas de quoi demain serait fait. Je ne savais pas si je pourrais rester à Bali, je ne savais pas si je pourrais aller en France, je ne savais pas si j'avais vraiment envie d'aller en France, je ne savais pas si je restais à Ubud, je ne savais pas si je rentrais à Canggu, je ne savais pas si j'allais continuer à travailler ou non, bref, je ne savais pas. Et je me suis mis à anticiper un million de scénarios dans ma tête et là, j'ai commencé à être hyper stressée. Le fait d'être dans l'instant présent et de se reconnecter à soi ici et maintenant, c'est quelque chose qui nous aide, mais tellement. Alors, quand vous allez commencer à mettre en place ce qui va suivre, c'est-à-dire cette petite routine et ces petits tips que je vais vous donner et que je vais vous transmettre, qui pourront vous aider dans votre quotidien, peut-être qu'au début, cet état d'instant présent, cet état de connexion à vous, vous le ressentirez que pendant quelques secondes. Mais c'est déjà génial parce que vous allez ressentir, vous allez comprendre ce que c'est en fait d'être vous et de voir que tout ce qui vous faisait peur, tout ce qui vous contrôlait au final glisse sur vous. Et c'est un bonheur absolu, clairement. Donc vivre dans l'instant présent, ça vous permet en fait de passer outre tous ces poisons qu'on a cités, l'ignorance, l'égoïsme, l'attachement, l'aversion et la peur. Généralement, quand on entretient un cercle vicieux, justement émotionnel notamment, ce que je disais, on vit dans cette bulle et à terme, même à très court terme, c'est très mauvais pour l'esprit, c'est très mauvais aussi pour le corps. J'aborderai, j'espère, par la suite un épisode sur l'Ayurveda parce que c'est vraiment une discipline que je trouve passionnante. Mais dans l'Ayurveda, en fait, on vous explique que tout est lié. Votre corps, votre esprit, votre âme, tout est lié de façon très intime. Et moi, dans ma constitution ayurvédique, notamment, je suis extrêmement contrôlée par mes émotions. Quand je dis « je suis », c'est mon corps, donc mon enveloppe corporelle. Un de mes koshas, un autre concept qu'on pourra aborder par la suite si ça vous intéresse, mais mon enveloppe physique, mon enveloppe extérieure, la plus superficielle que je peux retrouver en moi, c'est cette enveloppe-là en fait qui va être la plus impactée par mes émotions, par mon mental et par ce que je peux ressentir à l'intérieur de moi. Et le fait d'entretenir des émotions négatives va forcément entretenir un cercle vicieux et vous n'allez plus arriver en fait à vous sortir de ce cercle parce que vous êtes dans un engrenage émotionnellement. Et sans mettre en place une routine, on perd totalement le contrôle et après on a besoin, je pense, de se faire aider aussi et que quelqu'un en fait nous aide et nous apporte cette part d'objectivité pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc cette deuxième partie de podcast, j'ai vraiment du mal avec le terme podcast, vous constaterez. Donc cette deuxième partie de podcast, elle va être vraiment pour vous aider justement à anticiper, entre guillemets, bon, on n'a pas envie d'anticiper hein, parce qu'on va être dans l'instant présent, mais ça va vous aider surtout à mettre en place des routines au quotidien pour être sur le long terme une personne saine, une personne stable et équilibrée. Voilà le programme. Alors, dans cette routine, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire, il y a des choses que vous pouvez... des petits exercices que vous pouvez vraiment faire au quotidien et que moi je fais au quotidien. Et ensuite, il y a, dirons-nous, des best practices un petit peu. Des choses qu'il faut toujours garder à l'esprit dans son quotidien parce que ça va vous aider à faire face à n'importe quelle situation. Le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est d'accueillir ces émotions, quelles qu'elles soient. De les accepter, de les embrasser, de respirer au travers ses émotions et ensuite de les laisser s'échapper. Je pense qu'il n'y a aucune émotion en soi qui soit réellement négative, dès lors qu'on en a conscience. Dès lors qu'il y a une conscience de qui l'on est, de ce que l'on ressent, dès lors qu'on a du recul et de l'objectivité vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, alors cette émotion, selon moi, ne sera pas péjorative, au contraire. Au contraire, c'est une émotion que vous avez besoin de ressentir. Parce que si vous ne la ressentez pas, si vous n'acceptez pas de la ressentir, alors vous allez recommettre les mêmes erreurs encore et encore. Le fait d'être face à une situation et de se rendre compte que vous ressentez telle émotion, par la suite, en fait, vous saurez que si vous êtes à nouveau face à ce même type de situation, vous allez ressentir telle émotion. Et que potentiellement, telle émotion vous fera vous comporter ou vous fera avoir une attitude que vous n'avez pas envie d'avoir envers autrui ou même envers vous-même. Donc j'admets que là, on est un peu quand même dans ce que je disais, un peu dans le futur, un petit peu dans le passé, voilà. Mais c'est important aussi de trouver un équilibre parce que on peut être dans un futur très lointain et que ça devienne très négatif pour nous, mais on peut être dans un futur très court-termiste, dans une demi-heure, dans une heure ou demain, et que ça devienne déjà un peu plus gérable et un peu plus positif. Donc accueillez vos émotions. Pleurez. Pleurez. C'est la plus belle émotion qu'on puisse ressentir. Pleurer de joie, pleurer de peine, pleurer de douleur, pleurer de déception, pleurer de peur, pleurer. Parce que pleurer, c'est aussi évacuer. J'adore pleurer sous ma douche, je ne me cacherai pas. J'adore pleurer sous ma douche parce que mes larmes se mélangent avec l'eau et je trouve que c'est un sentiment incroyable de retour à soi et d'acceptation de ses émotions, réellement. Et une fois qu'on a réussi justement à accueillir ces émotions et à les accepter, alors on est à même de lâcher prise et de permettre à ces émotions de sortir de nous et de revoir à nouveau, réavoir pardon, à nouveau des émotions positives qui nous dominent. Mon deuxième conseil, c'est de cultiver le bien-être de l'esprit. Donc, comme ce que je disais, en fait, en s'ancrant dans le moment présent. Quand on est dans le moment présent, donc généralement, le moment présent, on le définit par ici et maintenant. Le moment présent, c'est à la fois le lieu dans lequel on se trouve. Là, actuellement, je suis assise sur mon lit, donc je suis ici. Et maintenant, donc comment je me positionne dans le temps? Très exactement, il est 16h13 et nous sommes à Bali. Je suis sur mon lit et je suis dans l'instant présent en train de vous parler et d'enregistrer mon podcast. Du fait d'être à 100% dans cet instant présent, je suis à 100% ancrée dans ma vie, dans mon corps, et je suis à 100% reconnectée à moi-même. Ce qui est aussi génial quand je vous parle, c'est que je ne suis pas collée à un écran. Et ça, c'est fondamental si vous voulez réussir à tourner votre regard vers l'intérieur. Évitez au maximum les écrans, autant que vous le pouvez. Et quand je dis un écran, c'est aussi bien un iPad qu'un téléphone, qu'une télé, n'importe quel écran. Reconnectez-vous à vous en respirant, en méditant, évidemment, mais aussi au bruit qui vous entoure, avec les yeux ouverts. Écoutez ce qui se passe autour de vous. Peut-être qu'il pleut et que vous n'en êtes pas rendu compte. C'est ça aussi, se reconnecter à soi. C'est arriver en fait à se recontextualiser dans un lieu, donc dans l'espace et dans le temps. Et ça, je vous invite vraiment à l'expérimenter au moins au lever le matin, de ne pas vous jeter en fait sur votre téléphone parce que ce sera nécessairement anxiogène, encore plus en ce moment. Mais globalement, vous allez être pris justement par des messages, par des mails, par peut-être des choses qui ne sont pas forcément positives en plus de ça. Ça peut venir d'amis, mais ça peut aussi venir de votre famille, ça peut venir de votre travail. Et quand vous vous levez, vous avez besoin d'arriver, vous avez besoin de réveiller votre corps et vous avez besoin de vous reconnecter à votre vous réveillé, éveillé. Donc c'est hyper important en fait. Quand vous levez le matin, une des choses vraiment primordiales que je vous conseille de faire, expérimentez-le peut-être déjà une journée, après une semaine, après deux semaines. Maintenant, moi, je ne vis qu'avec un téléphone en mode avion quand je vais me coucher et quand je me lève. Et mon téléphone ne sort pas du mode avion tant que je n'ai pas fait mon yoga. Et j'avoue que tant que je n'ai pas fait mon yoga, pour être très honnête, tant que mon corps ne sera pas un peu bougé dans tous les sens, mon esprit aura beaucoup de mal à être réveillé. Et tant que je n'aurai pas fait mon yoga, du coup, je ne vais pas activer mon téléphone, je ne vais parler à personne. Une autre chose que vous pouvez faire justement pour être bien dans votre esprit, c'est de vous entourer de gens positifs. Alors, comme je le disais, il faut prendre en compte qu'on est tous différents, qu'on a tous des schémas de pensée différents, et ça, c'est hyper positif parce que la diversité fait la beauté et la singularité de notre monde. Et l'individualité, l'unicité, c'est aussi ce qui fait que, bah, voilà, on s'aime les uns et les autres et on s'aime pour nos différences, et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que c'est important, quand je dis de s'entourer de gens positifs, c'est pas forcément de gens qui seront exactement comme vous. Parce que vous pouvez avoir une passion commune avec quelqu'un, mais que tout ce qui constitue cette personne, tout le reste qui fait cette personne, en fait, ne vous correspond pas du tout. Et c'est pas parce que vous avez un point commun avec une personne que forcément cette personne, elle sera positive pour vous. Et vous pouvez être à 100% pareil avec cette personne, avec une autre personne du coup, vous pouvez être à 100% pareil, et pour autant, cette relation va être hyper toxique parce que vous n'allez pas vous donner au quotidien des choses qui vont vous permettre de grandir et de vous épanouir. Donc s'entourer de gens positifs, c'est déjà ce que je disais, accueillir ses émotions, accueillir ses ressentis par rapport à ces personnes. Comment vous vous sentez quand vous avez échangé par message ou quand vous avez échangé autour d'un café avec cette personne? Si la majorité des sentiments, des émotions que vous allez ressentir seront négatives, éloignez-vous de cette personne, prenez vos distances, vous voyez-la moins souvent. Voyez-la quand vous serez dans une disposition où vous serez à même d'accueillir peut-être la négativité que va vous apporter cette personne. Mais globalement, dans 95% du temps, sachez vous entourer de personnes qui vont vous apporter du bien-être, de la joie, qui seront là pour vous soutenir et vous faire rire. Parce que le rire, c'est hyper important. Un autre de mes conseils pour être bien dans l'instant présent, c'est de méditer et de se relaxer. Alors la méditation, c'est quand même une pratique qui est très avancée. Savoir méditer, c'est quand même quelque chose qui prend du temps et de l'expérience. Moi-même, aujourd'hui, je ne suis pas à même de pouvoir dire que je médite. Par contre, je me relaxe. Et c'est aussi une forme de méditation, de savoir se relaxer. Et il y a plein de formes de méditation, en fait, au final. Vous mettre en cuisine et couper des légumes, cuisiner, c'est une forme de méditation. Vous asseoir dans une pièce et regarder une bougie, c'est une forme de méditation. Vous asseoir ou même rester debout, fermer les yeux, écouter les sons environnants ou écouter votre respiration, c'est une forme de méditation. Tout ce qui va être à même en fait de recanaliser votre esprit, de reconcentrer votre attention sur un point très spécifique, va vous amener à terme à de la méditation pure et dure, entre guillemets. C'est-à-dire que, on en parlera dans le prochain épisode quand je vous parlerai de la philosophie yogique, mais avant la méditation arrive la concentration. Une fois qu'on arrive à être dans un état ultime de concentration, alors là, on arrive dans un réel état de méditation. Mais c'est comme ce que je dis, comme je disais, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc aujourd'hui, pensez à qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me permet en fait d'arrêter ce brouhaha dans ma tête, d'arrêter ce flux de pensée. Qu'est-ce qui m'aide à me calmer. En ce moment, j'aime beaucoup m'allonger sur mon lit et mettre du piano, la musique classique ou des morceaux que j'aime particulièrement. Si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre un lien je vais y arriver, vers une playlist avec des musiques de relaxation que j'aime utiliser tous les soirs. Avant de dîner ou après dîner, mais généralement j'aime bien le faire avant dîner. Et ça fait énormément de bien de se mettre dans le noir, allumer des bougies si vous avez des bougies, allumer de l'encens si c'est quelque chose qui vous plaît. En tant qu'hypersensible, j'ai beaucoup de mal avec l'encens parce que je trouve les odeurs vraiment très fortes. Mais j'aime beaucoup les odeurs naturelles, j'aime beaucoup voilà, sentir par exemple l'odeur d'un agrume dans ma pièce, sentir l'odeur des fruits frais, voilà, ça c'est quelque chose qui moi pour le coup va énormément m'apaiser, sentir des fleurs fraîches dans ma pièce, c'est quelque chose qui va énormément m'apaiser. Donc pour le coup, méditer, se relaxer, s'asseoir, prendre le temps de respirer, faire des exercices de respiration. Et ça, c'est un, d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais vous poster dans les prochains jours. Ma routine méditation et pranayama. Parce que pour moi, la respiration, c'est, je pense, une des clés pour arriver à s'ancrer dans l'instant présent, mais aussi à se reconnecter à soi. Et je trouve que c'est, entre guillemets, la forme la plus simple de concentration et de méditation. Parce que la respiration, ça se passe à l'intérieur de nous. Et dès lors qu'on arrive à prendre notre esprit, à le faire se focaliser sur ce flux, soit en lui donnant une couleur, soit en lui donnant une texture, soit en lui attribuant un bruit ou je ne sais quoi, je trouve que ça a quelque chose, c'est une pratique qui a vraiment quelque chose d'hyper puissant en fait sur l'esprit. Et ça, j'ai vraiment, vraiment très envie de vous le partager. Donc aujourd'hui, j'ai une routine. Quand je dis aujourd'hui, c'est en situation quand je me retrouve dans ma vie une période où je suis un peu plus stressée, un peu plus voilà, j'ai besoin d'un peu plus m'ancrer. Je vais faire ma routine tous les matins et tous les soirs. Tous les matins, donc comme je disais, avant d'allumer mon ordinateur ou mon téléphone, mais aussi tous les soirs, au moment de couper mon téléphone, avant de dîner, je vais faire ma petite routine méditation, relaxation, respiration. Ensuite, je vais dîner, ensuite j'irai me coucher, mais mon téléphone, je ne le rallumerai pas avant le lendemain. Voilà. Une autre chose que vous pouvez faire, justement, pour vous aider à canaliser vos émotions, c'est bouger votre corps. Donc, comme je disais, moi, j'ai une activité physique qui est via le yoga et je pratique tous les matins et tous les soirs. Je peux aussi prendre des jours off. Clairement, c'est important d'écouter son corps dans tous les cas. Mais le fait d'avoir une activité physique, quelle qu'elle soit, que ce soit du yoga, mais que ce soit, je sais pas, d'aller à la salle, d'aller marcher, tout simplement, de courir, ça permet vraiment de relâcher toutes ces émotions en fait qui sont accumulées à l'intérieur de nous. Souvent, je dis, je vais imploser. Je vais imploser parce que j'en ai beaucoup trop à l'intérieur de moi et j'ai besoin que ça sorte. Et j'ai pas envie d'exploser. J'ai pas envie que ça sorte. Sur quelqu'un, j'ai envie d'avoir encore ce contrôle et d'être capable de dire alors aujourd'hui en fait je vais passer la journée toute seule et puis je vais faire du sport et puis je vais me recentrer sur moi et puis je vais méditer, je vais me relaxer, etc. Je vais faire toutes ces choses en fait qui vont me permettre d'évacuer toutes ces émotions qui clairement débordent à l'intérieur de moi. L'activité physique, et je pense que vous serez énormément à en témoigner, c'est un réel bonheur pour l'esprit et pour le corps. Voilà. Autre petit conseil que j'aime bien donner, c'est prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps, au sens bien sûr large du terme, de son corps, mais aussi de son esprit. Première chose, en mangeant des aliments et de la nourriture qui soit bonne, qui vous fasse plaisir. Évitez de manger des choses qui soient peut-être un peu lourd à digérer, qu'il soit frit, un petit peu trop gras. Évitez peut-être l'alcool. Je dis peut-être parce qu'encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie, mais voilà, évitez de fumer parce que c'est des choses qui vont vous mettre dans un cercle vicieux, en fait, tout simplement. C'est des choses qui vont vous amener du stress, qui vont vous faire aussi perdre le contrôle de qui vous êtes et de ce que vous ressentez. Et le fait de nourrir son corps avec des aliments et avec des plats qui sont nourrissants, qui sont, comme on dit, sattviques, qui sont sains, ça va nécessairement vous permettre de vous sentir bien, même inconsciemment. Moi, je pratique beaucoup l'alimentation ayurvédique en tant que constitution vata. Pour moi, c'est important, par exemple, de manger des aliments qui vont m'ancrer, comme la patate douce, comme la pumpkin, tous ces légumes racines qu'on appelle justement qui vont nous permettre de nous ramener à la terre. Manger aussi beaucoup de bons gras, l'avocat, tout ce qui est oléagineux, beurre d'amande, beurre de cacahuète, voilà. Toutes ces choses-là, l'huile de coco, les huiles, c'est des choses qui aident énormément à s'ancrer. Et c'est des choses qui sont très, très saines pour notre corps et pour notre esprit aussi. L'Ayurveda aussi préconise l'automassage. Donc moi, j'aime beaucoup m'automasser avec une huile chaude au niveau du ventre. ça aide énormément au niveau de la digestion. Et puis voilà, vous pouvez aussi vous automasser les bras, les jambes avec une huile. Ça vous permettra justement de nourrir aussi votre peau. Et puis ça a une odeur aussi qui est quand même assez envoûtante et assez enveloppante. Et on a un réel sentiment aussi de cocon et de bien-être une fois qu'on a fait un massage. Donc si vous avez ça en stock chez vous, je vous le recommande. L'autre chose que j'aime bien faire et que j'aime bien conseiller, c'est d'apprendre. D'apprendre sur soi, évidemment, mais aussi d'apprendre quelque chose de nouveau. D'écrire beaucoup, de lire. D'essayer d'animer sa créativité, justement. C'est drôle, mais je trouve qu'en se recentrant sur soi, en tout cas, moi, c'est mon cas, quand je me recentre sur moi, je suis tellement plus créative, je suis tellement plus inspirée, j'ai plein d'idées, en fait, quand mon esprit, en fait, n'est pas contrôlé, en fait, par tout ce qui se passe autour de moi et par des messages, par un agenda, par ma to-do list, etc. Donc le fait vraiment d'en revenir à l'essentiel, et notamment via l'écriture, si vous avez un notebook, je vous conseille de l'ouvrir tous les matins et au saut du lit, de prendre votre stylo et d'écrire. Il n'y a pas de règle dans l'écriture, ce qu'on appelle le journaling, dans le fait de tenir un journal, il n'y a pas de règle. L'idée, c'est de se lever, de se prendre un stylo et de ne pas avoir peur en fait de ce qui peut en sortir ou de ne pas avoir peur de ce qui peut ne pas sortir. Parce qu'en fait, vous serez surpris de voir tout ce qui peut sortir justement et de tout ce que vous avez emmagasiné dans votre esprit la veille et pendant la nuit. Donc je vous conseille vivement de mettre en place cette petite routine parce que ça vous aidera énormément et ça... Vous verrez en fait que vous allez prendre confiance en vous aussi et vous direz « Ah en fait j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à dire. » Et en fait il y a plein de choses que je ressens. Je pensais que je ne les ressentais pas mais en fait si, en fait elles sont là. Et ça vous aidera énormément aussi à vous reconnecter à vous et puis à prendre des décisions par la suite d'un point de vue aussi bien perso que professionnel. Donc je vous encourage vraiment vraiment à écrire. Et une autre chose que j'avais envie de dire, c'était de se reconnecter aux autres. Parce que depuis le début, en fait, je vous demande beaucoup de vous reconnecter à vous, et de vous recentrer via tout, justement, ces petites routines, ces petits exercices. Mais en fait, l'objectif, quand on se reconnecte à soi, c'est d'être plus à même de se reconnecter aux autres. Si on vivait seul avec soi-même, je pense qu'on serait triste. En tout cas, moi, je serais triste. Vous, je sais pas, mais moi, je serais triste. J'ai besoin des autres parce que les autres me nourrissent à tous les niveaux, émotionnels, bien sûr, parce que c'est des personnes qui vous apportent une attention à un moment donné, qui vont peut-être vous apporter de l'amour aussi à un moment donné, mais c'est aussi des personnes qui vont vous inspirer. Soit c'est quelqu'un où vous dites « bah moi j'ai pas du tout envie de vivre le style de vie qu'elle vit ». Et c'est très bien. Vous n'êtes pas forcément amis avec cette personne, vous n'êtes pas forcément proche avec cette personne, mais cette personne, le fait que vous soyez connecté à elle, va vous permettre de grandir. Et c'est aussi ça, en fait, que j'aime bien répéter. Mais il n'y a pas de rencontre négative, il n'y a pas d'expérience humaine négative. Si vous réfléchissez vraiment, si vous vous posez vraiment sur toute relation avortée, qu'elle soit amicale ou amoureuse, il y a forcément une chose positive que vous pouvez retenir de cette relation. Et ça, je vous invite à la fin de ce podcast à faire cet exercice, à prendre un cahier. Et la dernière relation qui vous aura blessé, qu'est-ce que vous en aurez retenu ? Moi, je vais vous donner un exemple très concret. J'avais rencontré quelqu'un quand j'étais en Australie et la relation a été avortée très rapidement. Et sur le coup, je me suis dit, tout est négatif en fait au final dans cette histoire. Je suis triste, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, je sais pas ce que je dois retenir au final de cette relation, est-ce qu'il y avait du positif ? Et en fait, avec un peu de recul, un petit peu de temps aussi, je me suis rendu compte que que cette personne, en fait, c'était la première personne qui m'avait vraiment aidée à me faire me sentir belle. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et c'est la première fois qu'un homme m'a fait vraiment me sentir belle. Qui m'a regardée dans les yeux et qui m'a dit que j'étais belle et je l'ai vraiment cru. Et malgré toute la peine que j'ai pu ressentir, à un moment, et je me suis dit, mais en fait, c'est merveilleux. Ah oui, c'était clairement pas l'homme de ma vie, vous vous direz. Mais on s'en fiche, en fait. Parce qu'en fait, cette personne, elle n'est pas rentrée dans votre vie pour y rester. Elle est rentrée dans votre vie pour vous donner une leçon. Elle est rentrée dans votre vie pour vous permettre de mieux vous connaître. Et peut-être pour mettre le doigt sur des choses hyper positives que vous avez en vous, mais que pour le moment ou à date, vous n'étiez pas capable de voir. Donc sachez vraiment, et ça j'ai vraiment envie de le souligner, que dans toutes les personnes, dans toutes les personnes que vous aurez rencontrées, dans toutes les expériences humaines que vous aurez vécues, à un moment, cette personne vous aura appris quelque chose. Même dans le pro, ça je vous le promets. Donc je vous invite à nouveau, je renouvelle mon invitation. Pratiquez cet exercice avec la dernière peut-être expérience que vous avez eue ou une expérience que vous avez du mal à oublier. Et peut-être que cet exercice vous aidera, vous me direz. Voilà. Et la dernière chose que j'avais envie de partager avec vous pour vous aider à gérer vos émotions et vous aider à être mieux avec vous-même et avec les autres, c'est de pratiquer la gratitude. C'est un sentiment qui est hyper important et qui est, je pense, dans notre société actuelle, être reconnaissant pour ce qu'on a et éprouver de la gratitude pour les choses, même qui nous semblent les plus minimes, c'est fondamental. Et c'est dingue, mais alors moi, en expérimentant justement cette expérience de confinement et de tout ce qu'on est en train de vivre justement avec ce virus, et avec l'incertitude aussi de pas savoir ce qui va se passer, les supermarchés qui se vident, l'incertitude de savoir si demain on pourra encore au final manger correctement et à notre faim. Je sais pas vous, mais moi, clairement, ça me rend beaucoup plus reconnaissante de pouvoir manger tous les jours, de pouvoir manger à ma faim et de pouvoir manger des choses qui soient de qualité. Ça me permet aussi de sortir de ma bulle un peu égocentrique et de me rappeler qu'il y a des gens aussi à l'autre bout du monde qui ne mangent pas à leur faim ou qui mangent peut-être du riz tous les jours et qui sont très heureux de manger un bol de riz tous les jours. Et voilà, j'avais envie de terminer ce podcast là-dessus parce que la gratitude et être, comme on dit en anglais, être grateful, mais aussi être thankful, c'est hyper important parce que c'est quelque chose qui vous permettra de toujours garder les pieds sur terre et d'avoir justement ce qu'on disait, cette tolérance et cette ouverture d'esprit vis-à-vis du monde qui nous entoure. Et c'est ça aussi qui vous rendra quelqu'un de beau, je pense. Être reconnaissant. Moi, tous les jours, je suis reconnaissante d'être à Bali. Tous les jours, je suis reconnaissante d'avoir des amis formidables qui m'entourent et qui me soutiennent. Et tous les jours, depuis 29 ans, je suis reconnaissante d'avoir une famille et d'avoir des parents qui m'ont soutenue depuis le début dans tous mes choix, perso et pro. Dans toutes les épreuves, dans tous les obstacles qu'on peut traverser. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de souligner, en particulier pendant cette période. Peut-être que vous êtes loin des personnes que vous aimez, peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, soyez reconnaissant pour toutes ces choses que vous avez aujourd'hui, pour ce toit que vous avez au-dessus de la tête, pour cette nourriture que vous pouvez mettre dans votre assiette tous les jours. Et je pense que c'est une bonne façon d'arriver à mieux s'ancrer. Et c'est aussi une bonne façon de mieux gérer ses émotions, de mieux, d'être mieux dans cet instant présent et de se rendre compte de la chance qu'on a malgré tout. Et peut-être dans nos petits malheurs, parce que comme je vous disais, c'est ok d'avoir des malheurs et ça, il n'y a aucun souci, il faut le ressentir. Mais dans ces petits malheurs, on a aussi beaucoup de chance et malgré tout, dans ces petits malheurs, on est quand même très heureux. Voilà. Je terminerai ce podcast là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup d'émotions et de sentiments positifs au travers cet écran, à travers ce podcast. Prenez soin de vous. Entretenez la joie, entretenez la gratitude, entretenez l'amour. Et puis je vous dis à très très vite sur ce podcast avec un tout nouvel épisode.